Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Donc, bienvenue sur Fréquence 8. Aujourd'hui, je retrouve notre invitée cette semaine, Cécile Marcadet, qui est venue nous parler de son troisième roman, Les fleurs du passé renaissent parfois. Donc, c'est aux éditions L'Harmattan. Bonjour Cécile Marcadet.
Bonjour.
Donc, hier, nous sommes quittés en esquissant un petit peu le portrait d'un des personnages quand même qui fait qui est incontournable dans ce roman, cette personne dont vous avez retrouvé petit livret.
L'histoire de sa guerre, oui.
Et c'est quand même un personnage haut en couleur, avec un parcours étonnant quand même, et détonnant pour l'époque, puisque on est début du XXe siècle à peu près.
Oui, c'est ça. Et c'est ce qui m'a plu d'ailleurs, après avoir découvert ce livret, c'est de pouvoir parler de cet homme qui a eu un parcours original, dans une famille juive.
Traditionnelle.
Traditionnelle sans l'être tant que ça, finalement. Hein. Mais parce qu'ils ne suivaient pas ils n'étaient pas... Il ne suivait pas les normes, bien sûr, comme tout le monde.
Dans la pratique religieuse, vous voulez dire ?
Oui, voilà.
Oui, mais dans les mœurs ou dans la moralité, c'était une famille traditionnelle, quoi.
Oui, bien sûr. Ben, elles sont toutes comme ça. Mais et c'est ça qui m'a plu. C'est cet homme qui était... tendre et impétueux et en même temps curieux, qui n'avait peur de rien, qui était capable de partir en laissant tout, parce que comme ça...
Que la vie l'amenait là.
Oui, parce que la vie l'amenait là, que l'école, ça le barbait au plus haut point, qui voulait s'enfoncer en même temps dans son enfance avec son doudou, là, qui ne le quittait pas, et en même temps qui était prêt à aller voir ailleurs sans problème. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant quand je l'ai découvert, parce que c'est pas son livret qui m'a incité à le faire, c'est le fait, à partir de là, d'interviewer sa femme et de connaître toutes les péripéties de leur vie à tous les deux.
Et il y en a eu des péripéties.
Et il y en a eu forcément, par ses origines et par ses racines plutôt. Et il y a eu des péripéties intéressantes et quelquefois très douloureuses. Ouais.
Et à la fois, ça a commencé très tôt, puisque à l'adolescence, l'enfant rebelle et commence à être un petit peu insupportable.
Un peu.
Et ses parents l'envoient en Angleterre.
Oui, déjà ça, c'était pas banal, dans un sens, surtout à cet âge-là. Et même s'il était un peu inquiet de l'histoire, il en a retiré un bienfait énorme, quoi. Ça lui a permis de forger son caractère à la curiosité d'un ailleurs.
C'est vrai que il sait qu'il y a c'est pas la même langue. Mais apparemment, ça n'a pas l'air de le bousculer plus que ça. Faut l'envoyer là. Bon, ben, on y va, quoi. Que c'est une punition pour les parents.
Oui.
Lui, on n'a pas l'impression qu'il prend ça comme une punition. Au contraire, l'occasion d'aller voir ailleurs comment ça se passe, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est un garçon assez, assez curieux et entreprenant, quoi. Je crois qu'il avait en lui ce goût de l'aventure. Et qui s'est traduit comme ça.
Et ça, il a suivi ça toute sa vie, en fait.
Finalement, oui. Puisqu'après, il est parti, une fois qu'il a été... il est parti à la guerre, à faire au fusil, hein, carrément. Et avec, pour échapper au carcan familial, il est parti en Syrie. là aussi, c'était quand même le début de l'aventure. Et puis, mais après, il est revenu vivre entre ses parents le reste de son âge, comme on dit si bien.
Oui, et comme on dit aussi, les voyages forment la jeunesse. Oui, c'est vrai que toute sa jeunesse, après, que c'est comme s'il avait pris goût.
Oui.
Ça a été... C'est son aventure incroyable aussi aux États-Unis.
Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Oui, il est parti aux États-Unis. Ses parents lui disent, allez, il faut que tu ailles aux États-Unis. Ah, bah, d'accord, bah, j'y vais. Tout à fait d'accord.
Les rares fois parents, où il a écouté ses parents,
oui.
Son père.
Oui, très très rare. Et oui, aux États-Unis, il va d'un endroit à l'autre, il traverse les États-Unis. Je suis allée voir le village qui avait été créé par ses cousines, là, enfin... Son oncle et ses cousines, et c'est très intéressant quoi de voir comment des Français se sont implantés là-bas.
Puis là, c'était jusqu'en Californie.
Jusqu'en Californie, Californie. Il a traversé les États-Unis, bien sûr.
Parce qu'il a débarqué à New York.
Ah, tout à fait, oui.
Avec un arrêt au Texas, et après, hop, ça a été le...
Déjà, le Texas, c'est pas tout près non plus. Donc, oui, mais rien ne lui faisait peur. Et voilà. Alors, il y en a qui peuvent dire oh, ben, c'est de l'inconscience. Ben, peut-être, c'est de l'inconscience, mais en même temps, ça permet justement d'aller au-delà de ses limites quand on réfléchit trop, quoi.
Oui, c'est sûr. Et puis, quelque part, c'est vrai que ces voyages, c'est ça qui est, c'est un aspect de sa personnalité qui vous a plu, ça, ce côté aventureux, ce côté les voyages, comme on disait hier, c'est une de vos passions.
Oui, c'est vrai, parce que c'est un homme que j'avais connu, moi, l'image qu'il reflétait, c'était plutôt la douceur et la gentillesse qu'il a toujours eue, mais je ne connaissais pas tout ce passé-là. Et quand je l'ai découvert, j'étais enthousiasmée.
Et vous l'avez découvert, ce monsieur est toujours en vie ?
Non,
Et quand vous avez découvert, une fois votre enquête faite ?
Il était plus là.
Donc vous n'avez pas pu
lui
dire toute votre admiration
face à
un parcours aussi incroyable.
Oui.
Et sa femme l'a suivi en plus ? Enfin, une fois qu'il s'est marié, sa femme avait ce côté aussi aventureux.
Oui. Bah, de toute façon, elle, ce qu'elle voulait, c'est être avec lui. Et ils avaient un amour profond l'un pour l'autre, mais même très âgé. Ils étincelaient. Vraiment, c'était un rayonnement incroyable. Mais elle avait une sacrée personnalité, parce que elle était grand maître d'un ordre, ils avaient vécu quelque chose de tout à fait particulier, mais elle avait sa place.
Mais dès le départ, c'est vrai que
quand
ils se sont mariés, on voit que c'est effectivement un mariage d'amour.
Oui.
Il s'est opposé à ses parents pour imposer son amour et son mariage,
bien sûr.
Quitte à se fâcher avec ses parents.
Oui.
Et après, on voit qu'ils se sont embarqués tous les deux dans la vie.
Oui.
Et on sent dès le départ ce profond attachement qu'ils pouvaient avoir l'un pour l'autre.
Oui.
Et ça, ils l'ont gardé toute leur vie.
Toute leur vie. Et ça a démarré pendant la guerre.
Oui, puisque c'était...
Ça, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai que là, alors, je ne connaissais pas cet aspect de la guerre, on y reviendra. Et donc, toute leur vie, ils sont partis en Syrie... aussitôt mariée,
oui,
et elle est partie, elle l'a suivie.
Oui.
Parce que la Syrie, c'est pas non plus une destination très commune.
Non.
Ça leur a servi de lune de miel.
En quelque sorte.
La Syrie d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, mais bon.
Non, mais c'était au début, c'était vraiment une aventure, c'était le début de la Syrie qui était un pays qu'on appelait la Grande Syrie, mais sous protectorat français, donc c'était un peu la raison pour laquelle ils y étaient, mais il n'y avait pas beaucoup de villes, enfin il y avait certaines villes, mais il y avait beaucoup de nomades. Mmh.
Et lui, il est parti comme, comme enseignant.
Comme enseignant, parce qu'il parlait très bien l'anglais, évidemment. Et pour, voilà, pour la... Comment ça s'appelle la société de...
L'école pour laquelle il est parti.
Oui. Qu'il a envoyé là. Il a dit, bah, d'accord, je ne connais pas, bah, j'y vais.
Bon, après, il a retrouvé effectivement des compatriotes et... ils n'étaient pas complètement isolés.
Non, bien sûr.
Ils étaient quand même une communauté de Français.
Comme ça se passe toujours dans ces pays-là.
Oui, les expatriés qui se regroupent entre eux. Voilà. En tous les cas, c'est un livre où on voyage beaucoup, et dans le temps, et dans les pays. Et que ce soit avec ce personnage ou avec votre héroïne qui se fait l'intermédiaire de cette histoire. Donc, je rappelle le titre de votre livre, « Les fleurs du passé renaissent parfois », et c'est aux éditions L'Harmattan. Donc, on se retrouve demain pour continuer à parler de ce personnage qui intrigue quand même pour son époque. À demain.
À demain.
Cécile Marcadet. Les fleurs du passé renaissent parfois. Plus que son regard, son intuition amoureuse fut attirée par une ravissante blonde aux cheveux libérés qui traversait la place d'un pas mal assuré. Joseph sentit les palpitations de son cœur accélérer plus qu'il ne la vit véritablement. Il se leva au moment où Suzanne tournait la tête vers l'église. Ils se reconnurent et un sourire épanoui de la jeune fille raconta, mieux qu'un long discours, combien les sentiments de Joseph étaient partagés. En une minute, ils se retrouvèrent face à face. C'était si facile, si évident. Leurs regards se noyèrent l'un dans l'autre. Tes yeux sont si profonds qu'en m'y penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer, tandis que leurs mains se joignaient. C'était si simple. Ils se connaissaient déjà depuis longtemps. Il se dit que sa voix était à l'unisson de son visage. Elle ne fut pas étonnée de le voir qui se penchait avec son regard de myope. Il la trouva plus belle que sur la photo. Elle entendit ses compliments en frissonnant. Sa voix tranquille la transportait. Combien de temps restèrent-ils ainsi à s'écouter, se sourire, s'envelopper d'un regard enamouré avant que Joseph ne réagisse ? Allons nous asseoir, je connais un salon de thé tout près. Suzanne tressaillit. Elle l'avait attendu si longtemps, subissant les sarcasmes de ses frères et les interrogations de sa mère. Il était là, devant elle. Elle craignait qu'en remuant ne serait-ce qu'un orteil, il ne s'évanouit comme dans ses rêves. Elle ne pouvait pas croire à sa chance de l'avoir rencontré. À ses yeux, il avait toutes les qualités. Sans lâcher sa main, elle l'accompagna dans un salon de thé en face du bon marché. Ce quartier lui était inconnu et elle en découvrait avec ravissement les bâtiments somptueux et élégants. Elle pressa la main de son Joseph, inquiète lorsqu'ils pénétrèrent dans le grand hall de l'hôtel Lutetia, qui sentait le neuf, la modernité, le raffinement d'un décor art nouveau. Ils se dirigèrent vers le salon de l'établissement, dont les tentures grenat offraient à la pièce, en même temps qu'une atmosphère intime et confidentielle, un caractère cossu et sophistiqué. Velours, porcelaine, orfèvrerie, cristal, autant de matériaux nobles qui l'éblouirent. Suzanne et Joseph, leurs mains entrelacées, se comptèrent les derniers jours qui avaient précédé leur retrouvaille. À l'extérieur, le jour déclinait. Les passants pressaient le pas, le nouveau grand magasin allait fermer ses portes, mais eux l'ignoraient, enfermés dans leur cocon d'amour. Ce n'est que lorsque le serveur, très beau dans sa livrée, vint leur proposer de renouveler leur consommation, que Joseph, sortant sa montre Gousset, réalisa que l'heure de se séparer avait sonné. Son cœur se mit à battre exagérément. Il se refusait à l'admettre, son être tout entier en repoussait l'idée. Suzanne, craignant par-dessus tout de rentrer chez elle après la tombée de la nuit, s'adressa à Joseph en s'excusant presque de prendre la parole. Il faut que je rentre. Je n'ai prévenu personne de mon absence et ma mère risque d'ameuter tout le quartier si elle ne me voit pas à la maison à mon retour. Je ne veux plus vous quitter. Voulez-vous m'épouser ? Mais... Suzanne bafouilla les larmes aux yeux. Non pas qu'elle n'eût jamais songé à cette proposition, mais elle n'avait pas voulu y attacher d'importance afin que le rêve ne prît pas le pas sur la réalité. Et voilà que ce beau rêve devenait actuel. Joseph se méprit sur cette réaction et se leva brutalement pour prendre congé, se ravisant à la dernière minute pour lui proposer de la raccompagner. Pardonnez-moi ma brutalité. Je vous attends depuis si longtemps. Faisons un petit bout de chemin ensemble, si vous voulez bien. Jusqu'à votre bus et laissez-moi garder l'espoir de vous revoir. Mais bien sûr. Mais c'est... Oui, mais je vous remercie. C'est... Je suis si heureuse. Si heureuse. Elle tourna son visage baigné de larmes vers Joseph, penché vers elle, en joignant les mains. Le jeune homme prit les deux mains gantées dans les siennes, ému et bouleversé. Il avait envie de le crier à tous les passants. Elle avait dit oui, il avait bien compris. Moi aussi, je suis très heureux. Je vais parler à mes parents sur l'heure. Vous avez raison, il se fait tard. Ne perdons plus de temps. Quand il arriva chez lui, son retard ne rendit pas très judicieux une conversation avec ses parents. Après le dîner, alors qu'il s'apprêtait à engager un dialogue, difficile, il en était persuadé, son père commença par lui refuser le cigare qu'il avait pris l'habitude de fumer dans le salon bibliothèque. Surpris, Joseph interrogea son père du regard. Que se passait-il ? Qu'avait-il encore à lui reprocher ? Ne le considérerait-il jamais comme un adulte ? C'est ainsi qu'il apprit qu'il n'avait pas eu la décence de rester auprès de ses parents à son retour et qu'il était immédiatement parti courir où il espérait bien le découvrir rapidement. Joseph fulminait. Son père n'avait pas changé et avait décidé, une fois pour toutes, de le garder sous sa coupe. Ce n'était pourtant pas le moment de se fâcher ouvertement s'il tenait à faire part de son intention à ses parents. Gardant une attitude calme et respectueuse, il demanda la permission d'inviter sa mère à partager leur conversation. Il avait quelque chose d'important à leur communiquer. Son père pâlit, mais sortit demander à sa femme de se joindre à eux. Elle arriva, le regard chargé de reproches. Oh non, elle aussi. Joseph rassembla son énergie qui n'était pas loin de se déliter. Il savait ce qu'il voulait. Il avait mûri et se sentait libéré de la tutelle parentale qui, jusqu'alors, l'avait tenu d'une manière autoritaire. Alors il invita ses parents à s'installer confortablement, tandis que lui-même, nerveux malgré tout, préférait rester debout face à eux, libre d'aller et venir si l'envie lui en venait. Il leur rappela son récit dans le restaurant et commença à évoquer sa marraine de guerre. Mais son père, sans le laisser finir le début de son récit, sauta de son siège en rugissant comme un lion. Sa mère sursauta, et il ne sut pas si c'était au cri féroce de son mari ou à l'annonce de ce que son fils chéri venait de faire. Il n'avait pas fallu 5 minutes avant que le salon ne se transformât en arène. Joseph tournait autour de la pièce, pâle, la tête baissée, cherchant comment continuer son récit. Le père poussait des cris rauques et inintelligibles tout en faisant des sauts sur son siège comme un marsupial affolé. Quant à sa mère, elle s'éventait, défaite, vautrée sur son siège, prête à s'évanouir si les circonstances le nécessitaient. Dans un gros cendrier, le cigare inutilisé se consumait.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la mer dont il s'est fait nommer en Bretagne, il était un assez de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.